Chapitre 50. Richard prit le morceau de nourriture d'un blanc immaculé que Victor lui tendait.
Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il.
Goûte et dis-moi ce que tu en penses. C'est une spécialité de mon pays. Tiens, essaie avec un morceau d'oignon rouge, c'est délicieux.
Richard obéit et ouvrit de grands yeux.
Victor, je n'ai jamais rien mangé de si bon. Comment ça s'appelle?
C'est du lardo.
Assis sur le seuil de l'entrepôt, du côté de la double porte, les deux hommes regardaient le soleil se lever sur le chantier. Au pied de la colline, quelques ouvriers s'affairaient déjà autour des murs du fief qui atteignaient désormais une hauteur respectable. Dans quelques minutes, des milliers d'hommes viendraient les rejoindre, des esclaves qui travaillaient tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Avec l'approche du printemps, le climat devenait plus agréable. Il pleuvait bien de temps en temps, surtout l'après-midi, mais ça n'avait rien de catastrophique. Juste ce qu'il fallait pour rafraîchir et débarbouiller un peu des hommes en sueur. S'il n'y avait pas eu l'absence de Callan, ses angoisses au sujet de la guerre, sa rage d'être prisonnier, la façon dont on exploitait les gens sur le chantier, les disparitions mystérieuses et les confessions arrachées sous la torture, Richard aurait pu apprécier la période de l'année où la vie reprenait ses droits. Bref, ailleurs qu'à Alterrang, il aurait été de bonne humeur. Savoir que Callan pourrait bientôt quitter la cabane ne faisait rien pour l'apaiser. Si elle se mêlait à la guerre, elle risquait d'être consumée par le plus grand incendie que le monde ait connu. Après avoir mangé un peu d'oignon doux, Richard prit une nouvelle bouchée de lardo.
« Victor, c'est vraiment délicieux. Comment prépare-t-on cette merveille ?»
Le forgeron tendit une nouvelle tranche à son ami, qu'il accepta avec plaisir. Après une longue nuit de travail, une nourriture pareille regonflait le moral. De la pointe de son couteau, Victor désigna la boîte qui contenait le bloc de lardo blanc.
« Le lardo est fait avec de la graisse d'estomac de sanglier. »«
Et cette boîte vient de chez toi ?»«
Non, j'ai fait ce lardo moi-même. Je suis originaire du sud, très loin d'ici, près de la mer. Quand je suis loin de chez moi, je cuisine pour me passer le mal du pays. Je verse le gras dans des moules en marbre aussi blancs que le lardo, puis j'ajoute du gros sel, du romarin et d'autres épices. » De temps en temps, je retourne le bloc dans la saumure où il trempe. Il faut une bonne année pour faire un lardo digne de ce nom.
Un an, vraiment?
Celui que nous mangeons date du printemps dernier. C'est mon père qui m'a appris à faire le lardo. Chez nous, c'est une spécialité exclusivement masculine. Mon père travaillait dans une carrière et il lui fallait ça pour avoir l'énergie nécessaire. Les forgerons aussi ont besoin de force.
Il y a donc des carrières chez toi?
Victor montra du pouce le bloc de marbre dans leur dos.
« C'est du marbre de Kavatura, mon pays. Il y en a aussi des tonnes sur le chantier. »«
Et tu viens de Kavatura ?»«
Oui, mon ami. La ville tire son nom des carrières d'où on extrait cette merveille. Dans ma famille, tout le monde travaille dans le marbre. Et moi, je suis devenu un forgeron qui fabrique des outils pour les tailleurs de pierre et les sculpteurs. »«
À leur façon, les forgerons sont des sculpteurs ?»
Victor eut un petit rire satisfait.
« Et toi, Richard, d'où viens-tu ? »
De très loin. Chez moi, il n'y a pas de marbre, seulement du granit.
Pour ne pas avoir à mentir, Richard préféra changer de sujet.
Alors, Victor, pour quand te faut-il cet acier spécial?
Demain. Tu pourras me livrer.
L'alliage dont Victor avait besoin était produit dans une fonderie située près des mines de charbon, assez loin du chantier et de la ville. Pour fabriquer un acier de qualité, d'énormes quantités de charbon étaient nécessaires. Le minerai, lui, arrivait par des barges. Pour honorer la commande, Richard devrait travailler toute la nuit.
« Sans problème. Aujourd'hui, je me ferai porter malade, ça me permettra de dormir un peu. »
Ces derniers mois, Richard avait souvent prétendu être en mauvaise santé. La plupart des employés procédaient ainsi. Quelques jours de travail, une fausse maladie, puis une guérison tout aussi factice. Certains hommes inventaient des histoires très compliquées. En pure perte parce que le groupe de travailleurs ne posait jamais de questions. En revanche, Richard ratait rarement les réunions où on dénonçait les comportements asociaux. Être présent n'empêchait pas qu'un délateur vous attaque, mais les absents étaient systématiquement pris pour cible. Très souvent, on les arrêtait afin de leur donner une chance de se repentir. Parfois, les personnes dénoncées lors d'une réunion préféraient le suicide à la prison.
« Neil, un des disciples de Narev est venu hier me passer une nouvelle commande. Ce que tu viens de me livrer suffira jusqu'à demain, mais après j'aurai besoin de cet acier.
Et tu l'auras.
C'est sûr.
T'ai-je déjà déçu, Victor ?
Le forgeron sourit puis coupa à son ami une nouvelle tranche de lardeau.
Non, jamais. Pourtant, je n'espérais plus rencontrer un homme capable de tenir sa parole.
Je ferai bien d'y aller maintenant. Mes chevaux ont eu une nuit difficile et ils ont besoin de repos. Combien te faut-il de barres de fer ?
100 carrés et 100 rondes.
Si tu ne me tues pas avant, tu feras de moi un colosse, Victor.
Le forgeron sourit, parfaitement d'accord avec ce pronostic.
Il te faut de l'or pour payer ?
Non, tu me régleras à la livraison.
Richard n'avait plus besoin d'avance de ce type. Propriétaire d'un solide chariot et d'un bel attelage, il payait Ishak pour qu'il prenne soin des bêtes dans les écuries de la compagnie de transport. Ishak aidait également Richard à obtenir les divers passe-droits dont il avait besoin. Presque aussi mal payés que tout le monde, les responsables de l'ordre qui vivaient dans les belles maisons ne crachaient pas sur tout ce qui pouvait arrondir leur fin de mois.
« Méfie-toi de Neil, » dit soudain Richard.
« Pourquoi ?»«
Il semble croire que je dois être remis sur le bon chemin. À ses yeux, l'ordre est vraiment le sauveur de l'humanité, et il place les intérêts de la confrérie au-dessus de ceux des gens. »
Victor se leva, noua son tablier de cuir et lâcha un gros soupir.
« Ouais, il me semblait avoir remarqué ça. »
Alors qu'il traversait l'entrepôt, Richard caressa du bout des doigts le bloc de marbre, comme chaque fois qu'il passait à côté. Sous sa peau, la pierre paraissait vivante.
« Victor, le premier jour, je t'ai demandé ce que c'était. Ça t'ennuierait de me répondre ?»«
C'est ma statue. »«
Pardon ?»«
Celle que je sculpterai un jour. » Dans ma famille, il y a beaucoup de sculpteurs et j'ai toujours voulu les imiter. Je rêvais de devenir un grand artiste. Au lieu de ça, j'ai dû travailler chez le forgeron installé près de la carrière. Ma famille avait besoin de manger et j'étais le fils aîné. Le forgeron étant son ami, mon père lui a demandé de m'engager. Il ne voulait pas qu'un casse-quelle-là de plus sacrifie son existence à la pierre. Tu sais, travailler dans une carrière à flanc de falaise est très dur et très dangereux.
Tu sculptes d'autres matériaux, par exemple le bois ?
Non, seule la pierre m'intéresse. J'ai acheté ce bloc avec mes économies. Il est à moi, et peu d'hommes peuvent se vanter de posséder un fragment de montagne, surtout si magnifique.
Richard comprit parfaitement ce que son ami voulait dire.
Et que vas-tu sculpter, Victor ?
Je n'en sais trop rien. On dit que la pierre parle à l'artiste et lui révèle ce qu'elle veut devenir.
Et tu y crois ?
Le forgeron éclata de rire.
« Pas un instant. Mais c'est un bloc de marbre de Cavatura, et il n'y a rien de mieux pour les statues. Pas question qu'on en fasse une des horreurs à la mode aujourd'hui. Jadis, un bloc si beau devenait une magnifique statue. Désormais, toute représentation de l'humanité doit être hideuse et inspirer la honte. »
Ayant livré sur le chantier les burins que fabriquait Victor, Richard avait pu voir de près les statues géantes. Semblables à toutes celles qu'on produisait dans l'Ancien Monde, elles constituaient un musée des horreurs qui dépassait l'imagination. Le fief entier illustrerait la vision du monde de l'ordre. La vie était souillée par la nature, et la seule rédemption s'obtenait dans le royaume des morts. Les personnages sculptés, toujours distordus, reflétaient le mépris qu'éprouvaient les chefs de l'ordre pour leur propre espèce. La haïssable anatomie humaine, cet amas dégoûtant de muscles, d'os et de sang, était volontairement contrefaite pour inspirer la répulsion. Privés de toute expression quand ils étaient censés incarner la vertu, les personnages arboraient d'immondes rictus lorsqu'ils illustraient le destin sinistre des pêcheurs invétérés. Les gens ordinaires, toujours représentés au travail, affichaient une résignation proche de l'hébétude. Le plus souvent, il était impossible de distinguer les hommes des femmes, car tous portaient des vêtements neutres, semblables à ceux des prêtres de l'ordre. Comme l'imposait la doctrine officielle, la nudité était réservée aux damnés, leur corps tordu adressant un avertissement limpide à tous ceux qui envisageaient de s'éloigner de la lumière du Créateur. Selon l'ordre, l'être humain, stupide et méchant par nature, méritait d'être impitoyablement malmené par la vie. Craignant d'être arrêté et torturé, la plupart des sculpteurs faisaient mine d'adhérer à une esthétique qui devait secrètement les révulser. Une minorité, cependant, croyait dur comme fer aux enseignements de l'ordre. Quand ils les côtoyaient,
Le sorcier faisait toujours très attention à ce qu'il disait.
« Richard, soupira Victor, je voudrais tant que tu puisses admirer de belles statues, au lieu des abominations qu'on nous impose.
« J'ai vu de véritables œuvres d'art, mon ami, souffla le sorcier.
« Vraiment? Je suis content pour toi. Les gens devraient être émerveillés par l'art, pas avoir envie de se vomir sur les pieds.
Un jour, ton bloc deviendra une superbe statue.
« Je n'en sais rien, Richard. L'ordre surveille tout. Pour ses chefs, l'individu n'a aucune importance, sauf quand il contribue au bien commun. Et l'art n'a pas échappé au massacre.
Tant que mon bloc sera intact, je pourrai rêver au chef-d'œuvre qui se cache dans la pierre. Je comprends ce que tu veux dire, Victor. Quand je regarde ton marbre, je le vois aussi.
Donc, ma statue a au moins deux admirateurs.
Le forgeron désigna la base du bloc.
Tu vois cette imperfection qui court à travers tout le monolithe? C'est à cause de ça que j'ai pu me l'offrir. La plupart des sculpteurs abîmeraient la pierre. Si on ne travaille pas prudemment, en tenant compte du défaut, le bloc peut très bien se fendre en deux. Jusque-là, je ne sais toujours pas comment m'y prendre pour éviter ça.
Ne perds pas espoir. Un jour, tu trouveras la solution et tu offriras au monde une œuvre pleine de noblesse.
De noblesse, dis-tu? C'est la beauté qui m'intéresse. Mais au fond, la noblesse est sa forme la plus sublime. Cela dit, je ne ferai rien du tout, pas avant que la révolte éclate.
Quelle révolte?
Victor regarda attentivement autour de lui avant de répondre.
« Eh bien, l'insurrection, elle viendra tôt ou tard. L'ordre ne tiendra pas indéfiniment. Tout ce qui est maléfique finit par disparaître. Dans mon pays, quand j'étais jeune, la liberté et la beauté existaient. Mais les gens ont été convaincus, par des mensonges bien sûr, de tout sacrifier à la cause de l'humanité. Une course à l'égalité qui finira dans un gouffre, tu peux me croire. Parce qu'ils ne savaient pas quel bien ils possédaient, les peuples de l'Ancien Monde ont renoncé à l'indépendance et se sont laissés endormir par des promesses creuses. Le bonheur pour tous, sans effort, sans combat et sans travail. On leur a fait croire que d'autres leur rendraient la vie plus facile et ils ne se sont pas posé les bonnes questions. À l'époque, mon pays était prospère. Aujourd'hui, la nourriture pourrit en attendant qu'un comité décide de la faire transporter et de fixer son prix. Pendant ce temps, les gens crèvent de faim. Les insurgés, c'est-à-dire les ennemis de l'ordre, sont accusés de tous les maux qui frappent la population. En conséquence, de plus en plus d'hommes et de femmes sont arrêtés et exécutés. L'Ancien Monde est devenu la patrie de la mort. L'ordre prétend aimer l'humanité. En réalité, il complote son extinction. Quand je voyageais pour gagner le chantier, j'ai vu des milliers de cadavres pourrir dans des champs. Dès qu'il y a un drame, l'ordre affirme que le nouveau monde en est responsable et de jeunes hommes, avides de se venger, partent pour la guerre en chantant. Mais beaucoup de gens ont fini par voir la vérité. Comme moi et tant d'autres, ces révoltés rêvent de reconquérir leur liberté et de se débarrasser du joug de l'ordre. Il y a des troubles dans mon pays natal, comme ici. La colère gronde.
Des troubles, ici? Je n'ai jamais rien vu.
Ceux qui se rebellent au fond de leur cœur ne le crient pas sur tous les toits. Effrayé par l'idée d'une insurrection, l'ordre arrache des confessions imaginaires à ses prisonniers. Chaque jour, les exécutions se multiplient. Quand on veut voir changer les choses, on ne s'expose pas avant que le moment soit venu. Crois-moi, Richard, un jour une révolte éclatera.
Je n'en suis pas si sûr que toi, Victor. Pour se rebeller, il faut une grande détermination, et je doute que beaucoup de gens la possèdent.
N'as-tu pas vu des dizaines de mécontents? Ishak, l'homme de la fonderie, mes ouvriers, moi-même. À part les chefs locaux de l'ordre, ceux que tu corromps, tout le monde désire que les choses changent. Et même cela.
As-tu remarqué qu'aucun ne t'a dénoncé à un comité ou à un bureau?
Tu ne veux peut-être pas t'en mêler, ce qui est ton droit. Mais nous sommes nombreux à entendre les murmures venus du Nord qui parlent de liberté et de justice.
Venus du Nord, dis-tu?
Là-bas, les gens ont un sauveur. Richard Rall. Il les conduit au combat et on dit qu'il nous aidera à faire la révolution.
Si tout cela n'avait pas été si tragique, Richard aurait volontiers éclaté de rire.
Comment sais-tu que ce Rall est digne de confiance?
Victor foudroya le sourcier du regard, comme le jour de leur rencontre, une habitude qu'il avait perdue ces derniers temps.
On juge un homme à ses ennemis. L'empereur et le frère Narev détestent Richard Rall, et ça me suffit. C'est lui qui mettra le feu aux poudres dans l'ancien monde.
« Ce n'est qu'un homme, mon ami, » dit Richard avec un petit sourire mélancolique.
« Il ne faut pas l'idolâtrer. Vénère la cause, pas l'individu qu'il incarne un bref moment. »
« C'est exactement ce que dirait Richard Rall.
Et c'est pour ça qu'il est l'homme qu'il nous faut. »
Le sourcier estima qu'il était temps de changer de sujet.
« Bon, il faut que j'y aille. Je suis sûr que tu sauras que faire avec ton bloc de marbre. Le moment venu, l'idée s'imposera à toi d'elle-même. »
Le forgeron eut un nouveau regard noir, une pâle imitation de celui qui ne s'adressait pas à ses interlocuteurs en réalité, mais à ses oppresseurs invisibles.
« C'est ce que je pense depuis toujours. »
« As-tu déjà sculpté quelque chose, Victor ?»«
Non. Dans ce cas, es-tu sûr d'en avoir les capacités ?»
Le forgeron se tapota la tempe.
« Le talent est là-dedans, et la beauté aussi. » Pour moi, c'est tout ce qui importe. Si je touche à ce bloc avec un burin, je créerai de la beauté. Et l'ordre ne pourra jamais m'enlever ce bonheur-là.